question
à laquelle j'aimerais 8h48, Hervé Gardet, dans votre
j'ai voulu parler trop vite, voyez.
Vous voulez vous intéresser à la façon dont les plus riches contribuent ou pas à la lutte contre le changement climatique.
Dans Crésus, le chef-d'œuvre de Jean Giono, par ailleurs son seul film en tant que réalisateur, Jules découvre par hasard, dissimulé dans ce qui semble être un obus, une montagne de billets de banque. Du jour au lendemain, le modeste berger provençal, interprété par Fernandel, devient riche et anxieux. Que faire de cette fortune inattendue, lui dont les seuls rêves consistent à parcourir les pages du catalogue Manu France? Et visiblement, Jules est un cas à part parmi les riches. Il ne sait pas profiter de toutes ces choses auxquelles l'argent donne accès. Car, pardon pour ce truisme, mais plus vous en avez, plus vous consommez. C'est arithmétique, même si passé un certain seuil, certaines consommations plafonnent d'elles-mêmes. Vous aurez beau être milliardaire, vous ne pouvez habiter qu'une seule maison à la fois et conduire qu'une seule voiture à la fois. Alors reprenons. Plus vous avez d'argent, plus vous consommez. Plus vous consommez, plus vous contribuez au changement climatique. Un certain nombre d'études démontrent la corrélation qui existe entre le niveau de richesse et le bilan carbone des individus et des ménages. C'est ce que met en avant par exemple le dernier rapport publié par Oxfam. C'est aussi le constat d'une autre étude à peine plus ancienne de l'OFCE, le Centre de Recherche en Économie de Sciences Po. Même si celle-ci souligne néanmoins que le revenu ne saurait expliquer à lui seul le niveau d'empreinte carbone des ménages. C'est en tout cas au regard de ces disparités dans la contribution aux émissions de gaz à effet de serre que Greenpeace a proposé il y a quelques jours l'instauration d'une nouvelle forme d'ISF, un ISF climatique, à savoir un impôt sur la fortune indexé sur le bilan carbone des produits financiers dans lesquels investissent les ménages les plus riches. Pour l'ONG, cette mesure, en plus d'être redistributive, aurait aussi un effet incitatif en conduisant les détenteurs de capitaux à investir dans des fonds propres respectueux de l'environnement. Mmh. Cette proposition, formulée en plein débat parlementaire sur le budget, rejoint celle faite l'an dernier par plusieurs députés, l'impôt de solidarité écologique sur la fortune, consistant à taxer le patrimoine au-delà d'un certain seuil et d'affecter les recettes au financement de la transition écologique. Alors on peut dire de ces deux propositions qu'elles sont très françaises dans la mesure où la redistribution par l'impôt est au cœur de notre système de solidarité. Bien que contesté, au motif qu'il ferait fuir une partie des contribuables, ce système veut que les membres les plus riches de la collectivité doivent davantage contribuer en pourcentage que les plus modestes. Il s'agirait donc d'appliquer ce principe à la question climatique. Mais cette approche se retrouve en concurrence avec le modèle anglo-saxon, qui valorise le volontariat individuel plutôt que la contrainte collective. La philanthropie en est le fer de lance et elle investit de plus en plus la sphère environnementale. Les seuls dons pour le climat ont augmenté de 30% entre 2015 et 2017, même s'ils ne représentent pour l'instant qu'une toute petite partie des sommes récoltées et des programmes mis en place par les grandes fondations. Le toujours excellent site The Conversation vient de publier une série d'articles à ce sujet. Il y est notamment question de l'initiative de Jeff Bezos, le patron d'Amazon, qui en février dernier a annoncé son entrée en philanthropie en établissant un fonds de 10 milliards de dollars pour le climat, puis dans la foulée, la création d'un fonds pour aider les entreprises à atteindre la neutralité carbone. Ici, c'est l'initiative privée qui est valorisée. Alors on voit à travers ces deux modèles à quel point la question climatique, loin d'être un sujet à part, finit par interroger les grandes options politiques. Certes, redistribution organisée par l'État et générosité orchestrée par la philanthropie ne sont pas incompatibles, mais choisir la meilleure façon de faire contribuer les plus fortunés à la résolution d'une crise, qui les concerne tout autant que n'importe qui, ne relève pas simplement d'un choix technique, c'est un choix de société. Alors dans Crésus, Jules, ne sachant que faire de sa fortune, se met en tête de la distribuer à son voisinage. Il philanthropise. Mais la distribution tourne au fiasco, puis au cauchemar. Les villageois devenus suspicieux finissent par se retourner contre leur généreux donateur. Tirez-en la conclusion que vous voudrez.